Je l'ai dit, je suis très heureux d'avoir Thibaut Cantat, donc je l'ai dit, qui est chercheur au CEA à Saclay, et qui est un jeune chercheur, et qui a, ces dernières années, réalisé toute une série de travaux qui ont eu une très très grande visibilité à l'échelle internationale. Je suis très heureux aussi de dire que l'Académie des sciences lui a décerné un de ses grands prix il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Et donc il va continuer sur le thème des transformations qu'on pourrait faire subir à CO2 pour le valoriser. Je lui laisse la parole. Je vous laisse faire.
Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier Marc pour sa très gentille invitation. C'est un plaisir de venir présenter ici nos travaux sur le CO2 et puis de continuer en fait la discussion qui a été amorcée tout à l'heure. En vous présentant un peu quelle approche on essaye de suivre au CEA sur la conversion du CO2. Et je vais démarrer vraiment très classiquement avec une introduction très brève, juste pour donner quelques faits sur le CO2 et un état de l'art sur son utilisation, sa conversion, essentiellement au niveau industriel, parce qu'on va voir que notre but est vraiment d'embrasser le contexte industriel au plus proche. Et le contexte est finalement assez simple, je peux le résumer en une seule diapositive, qui est la suivante, c'est qu'on a accès assez facilement à des ressources carbonées fossiles, hydrocarbures, gaz, charbon, et que ces ressources carbonées ont une particularité, c'est qu'elles ont énormément d'énergie qui est stockée sous la forme de liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène. Donc la première utilisation à en faire, évidemment, c'est de le brûler et de récupérer de l'énergie. Elle n'est pas chère, facile à extraire, il faut le brûler, et utiliser cette énergie, ce qui finalement représente à peu près 80% du portefeuille énergétique mondial. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième application, c'est que ces ressources carbonées fossiles, par définition, sont porteurs de carbone. Donc on peut utiliser la matière carbone qu'elle contient et aller produire de la chimie organique, c'est-à-dire des polymères plastiques, des solvants, des engrais, tous les médicaments qu'on utilise. Et finalement, ce sont 10% des hydrocarbures extraits qui vont servir à faire les molécules de la chimie. Et quand on regarde l'industrie de la chimie organique, à 95%, elle utilise ces ressources fossiles comme entrant. Bien évidemment, sur des temps plus ou moins longs, le déchet qui va être produit, c'est la forme minérale, à savoir le CO2, à partir de ces applications. Donc là, la problématique, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire de ce CO2? Bien sûr, on peut faire la politique de l'autruche, je le capte, je le stocke, mais là, on n'est que dans un centre de coût. La problématique réelle va être donc qu'est-ce que je peux faire à partir du CO2 qui permet de recréer de la valeur, donc vraiment une valorisation du CO2 en sens redonner une valeur économique. Et là, on a le choix entre retourner vers une application carburant, mais ça, à court terme, à part être dans un submarin nucléaire ou en Islande, ça ne va pas être viable, ou alors on peut aller sur la chimie. Et là, on va jouer sur un autre levier qui est de dire je vais créer de la valeur ajoutée, de sorte que toute la partie de captage que j'aurai mise en amont, qui est un centre de coût, va pouvoir être compensée par la valeur ajoutée que je vais créer ici. Et il y a une autre dimension que je voudrais ajouter sur le fait d'aller vers la chimie, c'est qu'on n'a pas une utilisation énergétique de ces molécules. Normalement, à la fin de ma conférence, si je n'utilise plus ma chemise, je ne vais pas la brûler pour récupérer l'énergie qu'elle contient. Donc, ça aurait encore plus de sens de partir d'une source carbonée dépourvue d'énergie pour aller vers ces applications de la chimie. Typiquement, pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend les polymères polyoléphines de type polyéthylène, polystyrène, polypropylène, la production annuelle mondiale de ces polymères plastiques issus des hydrocarbures, ça permet de fixer environ 250 mégatonnes d'équivalent pétrole par an. Ce qui ne veut rien dire comme chiffre dans l'absolu, mais c'est exactement la consommation énergétique globale de la France sur un an. C'est-à-dire que chaque année, rien que pour faire des polymères plastiques, eh ben, c'est l'équivalent de la consommation énergétique de la France qui est fixée sous la forme d'un polymère et qu'on n'utilisera jamais pour une application énergétique. Alors bien sûr, on va avoir des défis. C'est que, évidemment, à partir de l'hydrocarbure, si on le brûle ou si on l'utilise, le déchet final, c'est le CO2. Donc, quand on va vouloir faire le chemin inverse, il va falloir apporter de l'énergie. Donc, on va avoir cette distinction entre apporter de l'énergie sous forme physique, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, soit par électroréduction, photoélectroréduction, ou sous la forme d'un partenaire chimique qui va apporter cette énergie en tenant bien compte, comme on l'a souligné déjà tout à l'heure, que l'énergie contenue dans ce cas-là dans le réactif doit provenir d'une source qui est décarbonée pour qu'on ait au final un bilan carbone qui soit favorable. Et puis bien sûr, on ne va pas pouvoir se permettre de passer par des états de transition ou des intermédiaires actionnels très hauts en énergie, sinon on va amputer le bilan carbone parce qu'on va devoir chauffer pour passer ces intermédiaires, et donc il va falloir utiliser des catalyseurs qui soient les plus rapides, les plus efficaces possibles pour avoir un bilan carbone favorable. Donc on a deux défis énergétiques, le premier est thermodynamique, à la limite c'est le plus simple à régler, on arrive très bien à identifier quelle est la bonne source d'énergie pour avoir une enthalpie libre de réaction qui permet d'avoir une réaction quantitative. Le vrai nœud, le nerf de la guerre, il est ici, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le catalyseur qui permet d'orienter parfaitement la réaction en fonction des réactifs et de l'énergie qu'on aura mise en entrée. Alors bien sûr, il nous faut une source d'énergie qui soit décarbonée et d'autres contraintes également sur la matière. Idéalement, ce qu'on veut, ce sont des métaux qui ne sont pas à base de métaux nobles. Alors, CO2 comme vecteur énergétique, oui. Le problème est quoi ? C'est que quand on considère des énergies décarbonées ou des énergies renouvelables, le problème, ça va être de vectoriser cette énergie, de la stocker, de la distribuer pour pouvoir l'utiliser. Et dans ce cas-là, le CO2, c'était vraiment typiquement ce qui a été présenté tout à l'heure, le CO2 peut jouer deux rôles. Le premier, dans le stockage de l'hydrogène, en considérant que c'est l'hydrogène qui est la forme réduite de l'eau et qui va être, lui, le vecteur énergétique, mais comme il y a un problème de distribution de l'hydrogène, d'augmentation de sa densité énergétique volumique, eh bien on peut l'utiliser pour hydrogéner l'acide formique et ensuite l'acide formique relibère l'hydrogène pour son utilisation, par exemple dans une pile à combustible. Ou bien on peut envisager directement la réduction du CO2 pour aller vers des molécules à très haute valeur énergétique, typiquement du méthanol ou du diméthyléther, soit par hydrogénation encore, soit par électroréduction du CO2. Et dans ce cas-là, par exemple, si on a du diméthyléther, on peut l'utiliser dans un moteur à combustion en remplacement du diesel. Et pourtant, ces applications à court terme ne vont pas être viables pour une raison qui est très simple, c'est qu'on est obligé de réduire le CO2, on est obligé d'apporter de l'énergie. Et je vous ai dit en introduction que l'énergie la moins chère, c'était le pétrole. Donc l'énergie la moins chère est carbonée pour le moment. C'est-à-dire qu'à court terme, vous n'avez que deux applications qui sont viables économiquement, si vous êtes à bord d'un sous-marin nucléaire ou si vous êtes en Islande. Pourquoi ? Parce que si vous êtes à bord d'un sous-marin nucléaire, votre problématique est très différente. Vous avez une pile nucléaire qui est embarquée, vos matelots respirent, ils dégagent du CO2. Pour des problèmes de ne pas être reparé, vous ne pouvez pas relarguer le CO2 gazeux dans l'eau, parce que sinon vous allez faire des bulles, ça va tout de suite être repéré. Donc la problématique qui a été développée, c'est de dire il faut que je réduise mon CO2 sous une forme liquide. Donc comme vous avez accès à beaucoup d'énergie, ce qui est fait, c'est de faire l'électrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène et de l'oxygène. Ça tombe bien, vos marins ont besoin de respirer. Après la respiration, ils relarguent du CO2 et vous allez combiner CO2 et hydrogène pour faire du méthanol que vous allez pouvoir relarguer dans l'eau de façon discrète. En Islande, la problématique est différente, mais c'est exactement le même schéma qui est mis en œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont accès à une bonne source d'énergie géothermique qui leur permet de générer par électrolyse de l'eau de l'hydrogène pour hydrogéner le CO2 et faire du méthanol qui, du coup, est décarboné dans le sens où c'est le méthanol de la source géothermique qui est utilisé avec l'énergie de la source géothermique pour faire du méthanol. Et dans ce cas-là, le business model n'est viable que pour une raison, c'est parce que vous avez des directives européennes, donc des subventions européennes, qui vous permettent de remplacer dans le diesel jusqu'à 3% du diesel par du méthanol. Du coup, qu'est-ce qu'on fait actuellement, vraiment, en termes industriels, à partir du CO2 ? Mais finalement, assez peu de choses. Le principal procédé qui utilise le CO2, c'est de partir de l'ammoniac, du CO2, le CO2 qui est d'ailleurs généré à cause du procédé qui permet de faire l'ammoniac, et de les convertir ensemble, selon le procédé Bosch-Meyser, pour faire de l'urée. Alors, c'est quand même un procédé qui, au final, émet du CO2. Pourquoi ? Parce que si la première étape est une étape rapide, facile, où le CO2 s'insère dans la liaison azote-hydrogène de l'ammoniac, la deuxième étape, qui consiste à condenser l'ammonium sur le carbamate, est difficile, puisque les polarités sont à l'envers de la réactivité. Une autre application, c'est de fixer le CO2 dans des aquifères salins sous la forme de carbonate inorganique. Et ça, ce sont des technologies qui sont déjà viables et qui peuvent avoir un avenir, en particulier dans un modèle de capture et stockage du CO2. Et puis en synthèse organique, le phénolate peut réagir avec le CO2 pour réaliser la carboxylation d'une liaison carbone-hydrogène. Et dans ce cas-là, vous avez accès à de l'acide salicylique assez facilement selon le procédé Kolbe-Schmitt. Alors j'aimerais remarquer un dernier procédé qui arrive tout juste sur le marché. C'est un procédé qui permet de faire des carbonates organiques à partir du CO2, dans le but de faire soit des solvants, soit des polymères organiques. Et classiquement, si vous voulez faire des carbonates organiques, ce sont des molécules organiques dans lesquelles l'atome de carbone est substitué par 4 atomes d'oxygène. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise du phosgène, qui est un gaz extrêmement toxique, qu'on condense avec un alcool en présence d'une base pour faire de façon quantitative ces carbonates. Donc c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, le problème étant la toxicité du phosgène et donc tous les coûts engendrés pour son utilisation. Ce qui serait particulièrement désirable ici, c'est de remplacer le phosgène par du CO2 et d'avoir exactement le même procédé qui tourne à partir du CO2. Le problème est, encore une fois, la thermodynamique, c'est que si vous faites la condensation directe de deux molécules d'alcool avec du CO2, vous avez une concentration à l'équilibre de carbonate qui est très faible. Et donc tout le jeu va être de déshydrater ce milieu. Oui, mais qui dit déshydrater dit consommer de l'énergie parce que votre déshydratant, vous devez le régénérer à la fin, donc vous devez le réchauffer, etc., etc. Du coup, ce qui a émergé, en fait, c'est de prendre une voie détournée et de prendre des diols 1,2 déjà déshydratés. Donc, en fait, on va prendre ces deux molécules d'alcool sur la même molécule, on va les pré-déshydrater en utilisant un époxyde et développer, par exemple, la réaction de copolymérisation d'un époxyde avec du CO2 pour faire des polymères de type polycarbonate. Donc au final, quand on regarde un petit peu en termes de volume, ce qu'on peut faire en partant du CO2 pour aller vers la chimie, ben là, il faut regarder vraiment de façon très simple quelles sont les émissions de CO2. Donc sur une échelle logarithmique, j'insiste, on émet à peu près 30 gigatonnes de CO2 par les activités humaines. On va considérer que sur ces 30 gigatonnes, il y en a 18 qui sont vraiment sur des sources assez concentrées, sorties de cheminées, de raffineries, de cimenteries, etc. Et puis 3 gigatonnes qui sont produites avec une concentration supérieure à 99,9%, qui permettent vraiment d'être utilisées sans plus de purification. Et sur ces 30 gigatonnes, actuellement, on en utilise, toutes applications confondues, environ 150 mégatonnes, et c'est à 90% pour faire l'urée selon le procédé Bosch-Meiser que je vous montrais tout à l'heure. Si on produisait toutes les molécules de la chimie organique, donc tous les médicaments, les polymères plastiques, les solvants, etc., à partir du CO2, ça ne permettrait de recycler que 2 gigatonnes de CO2. Donc clairement, quand on dit on va prendre du CO2 pour aller vers la chimie, on ne s'attaque pas du tout au problème du climat ou au problème des émissions massives de CO2. Par contre, on va jouer sur d'autres leviers, qui est que le CO2 est une molécule peu chère, abondante, renouvelable, sécurisée, c'est-à-dire que comme elle est bien distribuée à un coût moindre et partout dans le monde, vous n'avez pas une matière dont le coût est fluctuant. Et vous allez pouvoir l'utiliser pour remplacer des réactifs toxiques, par exemple le phosgène, comme je le disais tout à l'heure, ou bien des isocyanates, etc. Et parce que la valeur ajoutée de ces molécules est plus importante que celle des carburants, vous avez des applications à court terme pour aller soit vers les grandes molécules de la chimie de plateforme, les grands intermédiaires actionnels, dont là, vous avez une valeur ajoutée qui est moindre, ou pour aller vers la chimie fine, où là, vous avez une valeur ajoutée qui est encore superbe. Donc, en plus, sur la valeur ajoutée, vous avez plusieurs ordres de grandeur sur lesquelles vous pouvez jouer. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Le problème, c'est que ces 2 gigatonnes-là, vous n'avez pas une seule molécule. Derrière ces 2 gigatonnes, vous avez des milliers de molécules que vous devez produire à partir du CO2. Donc, vous avez beaucoup de procédés que vous allez devoir développer. Et ça, pour un chercheur, c'est super, parce que du coup, ça vous fait une grande carrière devant vous à explorer. Alors, quelle est un peu notre approche par rapport à cet état de l'art ? Et tout d'abord, ce que je vais faire pour vous illustrer notre approche, c'est essayer de résumer la totalité de ce qu'on a vu sur la valorisation du CO2 à l'aide d'un diagramme très simple sur lequel je vais représenter, sur l'axe des abscisses, la fonctionnalisation du CO2, à savoir la formation de liaisons carbone-oxygène, carbone-azote, carbone-carbone autour de l'atome de carbone du CO2. Et sur l'axe des ordonnées, je vais représenter l'énergie de la molécule finale qui va être directement contrôlée par le degré d'oxydation de l'atome de carbone, c'est-à-dire le nombre de liaisons carbone-hydrogène ou carbone-carbone que je vais pouvoir créer. Donc on retrouve en bas à gauche le CO2, non fonctionnalisé, très bas en énergie, et en haut à droite, les hydrocarbures. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de liaisons carbone-carbone et on est au degré d'oxydation, moins 3, moins 4. Donc actuellement, la majorité de la communauté se polarise vers la réduction verticale du CO2, par exemple pour aller à l'acide formique, pour la vectorisation de l'hydrogène, aller au méthanol, parce que là on a une densité énergétique qui est très proche des hydrocarbures, donc on a une application directement comme carburant. Si on regarde au niveau industriel, pourtant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne va certainement pas aller en vertical, on fait des carbonates ou de l'urée, c'est-à-dire qu'on reste en horizontal. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que ce qui coûte cher dans la conversion du CO2, c'est la source d'électrons décarbonés. Si vous voulez un électron décarboné, pour le moment, c'est trop cher. Du coup, ce qu'on se contente de faire, c'est d'éviter absolument de réduire le CO2. On ne va pas fournir d'électrons à l'atome de carbone et on va rester purement en fonctionnalisation. Alors, les molécules de la chimie organique, se situent évidemment dans la diagonale. Pourquoi ? Parce que si vous prenez une imine, par exemple, c'est une molécule qui est caractérisée par une liaison double carbone-azote au même degré d'oxydation que le formaldéhyde. Du coup, actuellement, si vous devez produire ces molécules, évidemment, le plus simple, c'est de partir de l'hydrocarbure. Parce que vous êtes hautement fonctionnalisé, très haut en énergie, et la problématique là va être d'oxyder les liaisons CH pour redescendre et aller vers ces molécules. Oui, mais ça c'est difficile, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une liaison CH qu'une autre liaison CH. Et oxyder sélectivement un hydrocarbure, en évitant sa dégradation complète en CO2, c'est-à-dire en évitant de le brûler, mais en s'arrêtant sur la diagonale pour faire ces molécules, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, qui est la base de la chimie organique industrielle depuis plus de 300 ans, et qui utilise des quantités phénoménales d'énergie, des quantités stoichiométriques de métaux pour oxyder sélectivement les liaisons CH. Et c'est bien pour ça que toutes ces molécules ont une valeur ajoutée qui est bien supérieure à celle des carburants. Du coup, c'est notre positionnement de dire ce qu'on va vouloir explorer, c'est aller du CO2 vers ces molécules de la chimie, et on doit donc développer des réactions qui sont diagonales, c'est-à-dire dans lesquelles on va coupler en une étape la fonctionnalisation du CO2 et la réduction pour aller vers ces molécules. Donc en termes de marché, là on est sur des marchés à haute valeur ajoutée, mais on va être sur des petits marchés en termes de volume, alors que sur les carburants, on va avoir beaucoup plus de tensions au niveau économique, mais en termes de volume de CO2 potentiellement recyclable, on va être sur des beaucoup plus gros volumes. Et pourtant, vous allez voir très souvent qu'on va raisonner avec les mêmes leviers, c'est-à-dire que quand on va par exemple à un éther ou à une amine, on est au même niveau énergétique que le méthanol, c'est-à-dire que toutes les problématiques de réduction efficace du CO2 vont se poser également sur ces molécules-là, mais avec moins de contraintes économiques. Alors la réaction qu'on avait choisi d'explorer tout d'abord comme preuve de concept pour cette approche, c'était de faire des formiates d'alkyl en utilisant le CO2 en présence d'un alcool comme actif fonctionnalisant pour me promener sur mon axe des abscisses, un réducteur qui sera un hydroxylane pour apporter des électrons, ça c'est pour se promener sur l'axe des Y. Le but étant de former des formiates d'alkyl dans lesquelles on a la formation d'une nouvelle liaison carbone-oxygène qui va montrer la fonctionnalisation et d'une nouvelle liaison carbone-hydrogène qui va nous montrer la réduction. Alors pourquoi le choix d'un hydroxylane? Ce que vous avez besoin, c'est d'apporter de l'énergie. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est amener trop d'énergie, parce que sinon vous allez perdre le différentiel, vous allez le dissiper sous forme de chaleur. Donc tout ce qui est hydrure métallique avec un fort potentiel réducteur, type hydrure d'aluminium, de bore ou de sodium, sont vraiment à écarter dans ce genre d'approche. Ce qu'on veut, c'est avoir des réducteurs qui ont un potentiel redox proche de celui de l'hydrogène, typiquement, et c'est exactement le cas des hydroxylanes. Par contre, les hydroxylanes ont un intérêt particulier, c'est que la liaison SiH est polarisée, vous avez un caractère hydrure légèrement marqué sur l'atome d'hydrogène ici, alors que la molécule de H2 est apolaire. Du coup, cinétiquement, c'est-à-dire la contrainte sur le catalyseur, va être plus légère quand on utilise un hydroxylane. Et bien sûr, notre schéma, il nous faut un catalyseur, parce que si vous faites la réaction en mélangeant simplement du CO2, un alcool et un hydroxylane, il ne se passe simplement rien du tout. Donc pour... Voilà notre problématique, on veut aller à partir d'un mélange de réactifs vers un mélange de produits et on veut le diriger pour aller vers un seul produit. Et dans ce cas-là, vraiment, quand on va dans cette exploration, on n'a pas notre bateau. Notre vaisseau, il faut le construire nous-mêmes, il faut construire le catalyseur qui va permettre d'orienter la réaction. Et on a vu tout à l'heure avec la présentation de Marc qu'il y avait toute une réflexion sur les catalyseurs et en général, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Dans ce genre d'approche-là que je vais vous développer, on a pris une autre approche qui est de partir des réactions stoichiométriques, c'est-à-dire de prendre un catalyseur potentiel et de regarder étape par étape comment on peut construire le cycle catalytique et à la fin de vérifier si le cycle catalytique tourne avec une quantité vraiment faible de catalyseur. Et dans notre problématique, il va falloir d'abord coupler l'alcool avec du CO2 et donc il faut activer la liaison oxygène-hydrogène de l'alcool et pour ça, il faut utiliser une base et on avait choisi cette base qui est une guanidine parce qu'elle a, elle est capable de développer un bon réseau de liaison hydrogène pour activer l'alcool et favoriser l'insertion du CO2 pour faire un carbonate organique. Une fois qu'on a ce carbonate organique, il faut le réduire avec notre réducteur qui est donc l'hydroxylane, la liaison SiH qui apporte les électrons, et l'utiliser pour transférer cet atome d'hydrogène pour faire la nouvelle liaison carbone-hydrogène. Et quand on mélange ce carbonate organique, stabilisé par le catalyseur potentiel, avec l'hydroxylane, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient bien un produit avec la formation d'une liaison carbone-hydrogène, donc on a une réduction. Par contre, le groupement fonctionnel qui est notre alcool est parti sur le silicium. Donc on a quelque chose qui est finalement vertical, on a une réduction, mais on perd notre groupement fonctionnel. Donc là, dans une approche stoichiométrique, il faut comprendre ce qui se passe. Alors pour comprendre ce qui se passe, on peut s'appuyer sur des calculs théoriques, en particulier des calculs basés sur la fonctionnelle de la densité, et essayer d'explorer un petit peu en termes d'énergie quelles sont les étapes qui sont mises en jeu et voir là où la réaction diverge par rapport à l'idée qu'on en avait. Donc ce qu'on a fait, c'est modéliser un petit peu le transfert de cette hydrure qui vient de la liaison SiH sur l'atome de carbone à partir du carbonate de guanidinium. Et quand on regarde le profil réactionnel, la surface d'énergie potentielle, on s'aperçoit que l'étape qui va coûter le plus cher, c'est de transférer cet hydrure sur l'atome de carbone. Et ensuite, va suivre toute une série d'équilibres qui va être dirigée, vous voyez, la molécule la plus basse. C'est cette molécule-là qui est celle qu'on a observée expérimentalement, c'est-à-dire le formiate de guanidinium avec notre groupement fonctionnel, l'alcool, là, qui est parti sur le silicium. Autrement dit, l'étape qui va contrôler la vitesse est la première étape de formation de la liaison carbone-hydrogène, et après, on contrôle plus ce qui se passe. Et comme on contrôle plus ce qui se passe, la réaction s'oriente vers le puits thermodynamique, le puits thermodynamique étant que l'atome de silicium, qui doit couper une liaison carbone-oxygène, ne fait pas la différence entre la liaison carbone-oxygène là, qui vient du CO2, et la liaison carbone-oxygène là, qui vient de notre alcool, et elle choisit le mauvais pour nous, parce que c'est le méthanolate là qui est le plus nucléophile. Du coup, le problème, le silicium n'est pas capable de faire la différence. Donc, on a deux leviers quand on a ce genre de profil. Soit on réduit ici l'état de transition, on essaye de jouer, de trouver une molécule qui va permettre de diminuer l'état de transition très bas de manière à différencier les différentes voies qui suivent. Ou bien ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter l'énergie de cette molécule pour l'éviter. Et comment on peut faire ça ? C'est de dire, j'ai choisi un alcool comme réactif fonctionnalisant. Mon silicium ne fait pas la différence entre la liaison carbone-oxygène de l'alcool et la liaison carbone-oxygène du CO2. Donc je vais passer à une amine au lieu d'un alcool et développer la même chimie en utilisant une amine comme réactif fonctionnalisant. Donc j'active la liaison NH de l'amine avec la guanidine. J'insère le CO2 pour faire non plus un carbonate, mais un carbamate. Et cette fois-ci, la réduction en présence de l'hydroxylane me fournit le produit diagonal, c'est-à-dire le formamide, dans lequel j'ai une liaison carbone-azote, donc c'est fonctionnalisé, et une liaison carbone-hydrogène, donc j'ai bien réduit la molécule de CO2. Et si on reprend le profil énergétique, on n'a pas modifié l'allure du profil, c'est-à-dire qu'on a toujours la première étape de formation de la liaison carbone-hydrogène qui va être la plus difficile, c'est elle qui va contrôler la vitesse. Par contre, après, ce qui se passe, c'est que le produit qu'on voulait éviter avec formation de la liaison silicium-azote est plus haut en énergie que le produit que l'on voulait, qui est le produit diagonal. Donc on oriente la réactivité vers le produit diagonal. Pourtant, ce n'est pas encore parfait parce que pour recycler un atome de carbone du CO2, le transformer en formamide, j'ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone sur mon réactif qui permettait d'activer la liaison azote-hydrogène. Donc en termes de bilan carbone, ce n'est pas bon du tout. Donc il faut passer à une version catalytique, et là il y a de l'espoir. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la guanidine, on était capable d'activer la liaison NH de l'amine, insérer le CO2, faire un carbamate, le réduire pour libérer le produit diagonal, et le sous-produit est un silanolate de guanidinium. Et s'il est en équilibre acido-basique, suffisamment déplacé vers la formation de la guanidine libre, on peut refermer le cycle catalytique et faire tourner la réaction avec seulement une quantité catalytique de catalyseur. Et en effet, c'est bien le cas, c'est-à-dire que si vous prenez une amine, du CO2, un hydroxylane, en présence non plus d'un équivalent de cette guanidine, mais de seulement 5% molaire, vous êtes capable de faire les formamides avec des très bonnes conversions. Alors, je ne vais pas vous faire tout le scope. Le but dans cette approche est d'avoir des procédés dans lesquels on va aller ouvrir le champ de molécules directement accessibles à partir du CO2. Donc, on va avoir toujours ce souci de regarder quel est le scope, quel est le spectre d'application, comment la nature du réactif fonctionnalisant et du réducteur permet d'orienter la réactivité finale vers la production de ces produits diagonaux. Alors, ces formamides, on les a déjà vus lors précédente, de la présentation de Marc, avec un autre procédé, qui est la version hydrogène de notre réaction. Si on reprend notre procédé, il s'agit de mélanger une amine, du CO2, un hydroxylane, un catalyseur. Vous avez vu, il n'y avait pas un seul atome métallique dans les catalyseurs que je vous ai présentés. On a des catalyseurs organiques pour faire des formamides. Donc les avantages ici, c'est qu'on a un catalyseur organique, une pression qui est très basse, typiquement de 1 à 5 bars. Quand on met 5 bars, c'est juste pour avoir assez de matière dans le ballon pour faire la réaction. On peut travailler en l'absence de solvant, sans additif, et avec un spectre d'application, c'est-à-dire un spectre de modulation des groupements R1, R2 ici, qui est assez large. Quand on regarde la version hydrogène, qui avait été développée à la base par Vasca, puis reprise par Noyuri, Baker, et beaucoup d'autres groupes pour être optimisés par la suite, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a besoin de catalyseurs qui sont métalliques. Pourquoi ? Parce qu'on a le problème d'activer H2 en même temps que d'activer le CO2, donc deux molécules apolaires qui sont cinétiquement difficiles à activer. Il faut travailler à des pressions généralement élevées en présence de solvants organiques. Et puis, vous êtes très limité sur le spectre d'application. Pourquoi ? Parce que vous pouvez seulement avoir ici un groupement méthyle, un groupement phényle ou un groupement éthyle. Oui, mais l'avantage, c'est que là, vous utilisez de l'hydrogène, alors que là, vous utilisez un hydroxylane. Et l'hydrogène, c'est quand même une source de réduction très intéressante. Pourquoi ? Parce que potentiellement, le sous-produit qui est l'eau, vous pouvez le recycler en hydrogène par électroréduction ou photoélectroréduction. Et donc, alors que l'hydrocyane, vous ne pouvez pas. Il n'y a aucune méthode électrochimique ou photoélectrochimique qui vous permet, à partir du silanol, qui est le sous-produit, de revenir à l'hydrocyane. Et là, il faut faire très attention, c'est-à-dire que, oui, l'hydrogène est bien, mais pour recycler le CO2, il faut de l'hydrogène décarboné. Et il faut, comme c'est votre source qui coûte cher, c'est elle qui apporte les électrons, que votre bilan hydrogène, c'est-à-dire le taux d'incorporation de l'hydrogène sous la forme d'une liaison CH, soit quantitatif. Sinon, vous perdez vos électrons que vous avez mis de façon si chère. Et là, vous voyez que vous avez besoin de 100 bars d'hydrogène, c'est-à-dire que sur un procédé comme ça, vous perdez, vous avez un rendement en hydrogène, donc un rendement en électrons, un rendement faradique, si vous préférez, qui est de l'ordre de quelques dizaines de pour mille, alors qu'ici, vous avez quelque chose qui est quantitatif. Donc il faut faire très attention à tous ces facteurs. Pour la réduction du CO2, votre hydrogène a besoin d'être décarboné, et du coup, vous avez besoin d'avoir des rendements hydrogène qui sont importants. Il ne faut jamais regarder les rendements CO2, les rendements amines, c'est les rendements hydrogène qui doivent être importants, et ça, c'est jamais calculé. Et pourtant, on n'est pas encore fini sur ce procédé, c'est-à-dire que pour le moment, avec le catalyseur que je vous ai présenté, on travaille à 100 degrés Celsius, et puis je vous ai montré plusieurs molécules qui pouvaient être transformées en leur forme amide, mais ce n'est pas encore assez large. On aimerait faire beaucoup mieux. Donc on a besoin, un besoin perpétuel, d'aller optimiser les catalyseurs, aller vers des classes de catalyseurs beaucoup plus performantes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on trouve ces nouveaux catalyseurs. L'inspiration est de dire qu'on va devoir activer la liaison silicium-hydrogène, donc on va vers des classes de catalyseurs qui sont capables de faire ça. Et là, on s'est tourné vers des carbènes N-hétérocycliques, typiquement ce genre de molécule, qui est caractérisé par une paire libre réactive sur un atome de carbone ici, pour catalyser cette transformation. Et sur cette deuxième génération de catalyseurs, on a quelque chose qui est environ 2000 fois plus réactif que la première génération de catalyseurs. Et du coup, vous pouvez travailler à la température ambiante. Et normalement, si vous avez un catalyseur qui est plus réactif, vous avez également plus de substrats que vous pouvez convertir. Donc, ça, c'est à peu près les substrats que j'avais montrés tout à l'heure avec la guanidine. Et vous aviez des conversions qui étaient faibles dans certains cas. Maintenant, c'est tout le temps quantitatif. Mais vous pouvez aller également sur des substrats qui n'étaient pas du tout réactifs avec la guanidine, par exemple des anilines, et formuler une liaison NH, voire deux liaisons NH, ou aller vers des substrats qui sont même fragiles, c'est-à-dire des imines dans lesquelles la liaison CN double ici et réactive dans les conditions classiques, mais parce que votre catalyseur est très réactif et très sélectif dans cette transformation, vous arrivez quand même à faire les formes amides pour des imines, des hydrazines, des hydrazones et des hétérocycles azotés. Donc voilà, là on est dans l'approche d'ouvrir le champ de molécules disponibles à partir du CO2. Et évidemment, on est dans une approche diagonale. Donc qui dit approche diagonale dit j'ai découplé le réactif fonctionnalisant de mon réactif réducteur. Donc je vous ai montré qu'on pouvait changer le réactif fonctionnalisant, l'amine. Est-ce qu'on peut changer également le réactif réducteur ? Eh bien oui, et surtout, ce qui nous tenait à cœur, c'est d'aller vers ce type de réducteur. Ce sont des polyméthylhydrosiloxanes qui contiennent une liaison SiH, mais qui, de façon très importante, sont produits comme sous-produits de l'industrie des silicones. Donc ce sont actuellement des déchets qui ont très peu de valorisation dans l'industrie des silicones. Et donc là, vous avez une source d'électrons pas chère, et surtout qui est jetable. Donc on n'est pas sur des réducteurs qui sont recyclables, vous allez toujours avoir des déchets qui sont des silanols, des siloxanes, mais vous avez des électrons pas chers que vous allez pouvoir utiliser et revaloriser derrière. Alors si je fais un petit point sur cette transformation, sur ce premier procédé, pour aller du CO2 vers les formes amides, les formes amides étant des produits de base de l'industrie pétrochimique, parce que c'est utilisé comme solvant, comme additif, etc. Le procédé pétrochimique est typique de la pétrochimie, c'est-à-dire que vous allez avoir un schéma industriel en plusieurs étapes, ce qu'on n'arrive jamais à faire en une seule réaction diagonale sélectivement les oxydations, et qui va partir d'une ressource carbonée fossile, typiquement du charbon, un hydrocarbure, pour faire du monoxyde de carbone. Et après, selon le type de formamide que vous voulez avoir, si vous voulez avoir les formamides disons, de base, c'est-à-dire le méthylformamide, le diméthylformamide ou le formamide parent, c'est le procédé optimisé, vous pouvez faire une carbonylation directe à partir du CO, ou bien si vous voulez faire des formamides plus sophistiqués, tels que ceux que je vous ai montrés, là vous êtes obligé de passer par une étape intermédiaire, passer à l'acide formique, et ensuite avoir une réaction d'aminolyse. Si vous partez à partir du CO2, donc l'avantage évidemment c'est que vous utilisez du CO2 qui est un déchet carboné, à la place d'utiliser un entrant qui est riche en énergie, vous utilisez un déchet silicié pour apporter l'énergie, et avec un large spectre d'amines, donc des amines, des imines, des hydrazines, des hydrazones, en l'absence de métal, à la température ambiante, sous une atmosphère de CO2, vous pouvez accéder au même produit. Alors, au tout début de ma présentation, je vous ai présenté cette analyse topologique qui nous donnait un petit peu notre carte d'exploration, comment est-ce qu'on va pouvoir explorer cette carte. Et surtout, là, ce que je voudrais prendre un petit quart d'heure pour vous montrer plusieurs défis qu'on s'était fixés, plusieurs cibles qu'on avait identifiées comme étant des nouveaux challenges pour la valorisation du CO2. Et le premier va être la désoxygénation complète du CO2. Alors, quelle est la problématique? Si vous prenez un article scientifique sur la valorisation, la transformation du CO2, vous verrez toujours que le grand défi, c'est d'utiliser le CO2 comme source de carbone, un atome de carbone, pour faire soit des carburants, soit de la chimie. Et finalement, quand on regarde les produits finaux qu'on obtient, vous avez des produits fonctionnalisés ou réduits, mais toujours vous gardez des atomes d'oxygène qui sont issus du CO2 liés à l'atome de carbone du CO2. Alors que ce qu'on voudrait idéalement, c'est prendre notre atome, notre molécule de CO2, aller casser toutes les liaisons carbone-oxygène, et puis on reconstruit tout de zéro, on remet tous les atomes qu'on veut autour de l'atome de carbone d'oxygène. Je coupe l'atome de carbone du CO2 et je reconstruis toute sa sphère de coordination derrière. Et pourtant, il n'y a qu'un seul procédé catalytique qui est capable de faire ça, c'est la réduction du CO2 vertical en méthane, ce qui n'a absolument aucun intérêt actuellement vu le prix des gaz de schiste. Donc, est-ce qu'on peut, à travers une approche diagonale, explorer ce type d'approche, essayer de promouvoir la désoxygénation complète du CO2, casser toutes les liaisons carbone-oxygène pour reconstruire complètement la sphère de coordination du CO2? Donc, ce qu'on s'était dit, c'est que notre premier procédé, partant du CO2 pour aller au formamide, on a déjà cassé deux des quatre liaisons carbone-oxygène. Donc on a fait la moitié du chemin. Est-ce qu'on ne peut pas passer à une approche tridimensionnelle et utiliser la réactivité intrinsèque de ces formamides, par exemple en présence d'un nouveau actif fonctionnalisant, un nucléophile, par exemple une amine primaire, pour aller casser les deux autres liaisons carbone-oxygène? Et donc passer à une carte tridimensionnelle avec deux réactifs fonctionnalisants et toujours un réducteur de type hydroxylane qui va apporter l'énergie. Donc la réaction qu'on s'était fixée d'explorer, c'était de prendre du CO2, la source de carbone, deux réactifs fonctionnalisants, une amine secondaire, une amine primaire, un hydroxylane qui apporte de l'énergie, pour faire un produit complètement désoxygéné, typiquement une formamidine. Alors ce qu'on a fait comme preuve de concept, c'est d'abord de synthétiser des hétérocycles azotés. On prend les deux fonctions amines sur la même molécule, en présence de CO2 et de l'hydroxylane, toujours en présence d'un catalyseur, bien sûr, puisqu'il faut activer la liaison SIH, les liaisons carbone-oxygène du CO2, pour voir si on pouvait faire des produits complètement désoxygénés. Ben, la réponse est oui, avec plusieurs groupements que vous pouvez changer, à la fois vous pouvez changer le groupement X ici, la nature du lien entre vos deux fonctions azotées, pour faire des hétérocycles de type benzimidazole, quinazolinone, 3,4-dihydroquinazoline. Donc ça, c'est encore une fois pour vous montrer cette approche d'ouvrir le champ de molécules disponibles à partir du CO2, avec des conversions qui sont plus ou moins bonnes, mais qu'on peut réoptimiser pour chaque cible. Ce n'est pas notre but. Notre but étant de montrer qu'on peut faire un lien entre CO2 et des molécules classiques de la pétrochimie, sachant que ces hétérocycles sont essentiellement utilisés pour tout ce qui est chimie des pesticides, des engrais et puis des médicaments. Dans les molécules que je vous ai montrées là, néanmoins, on est bien dans une approche tridimensionnelle. On désoxygène complètement l'atome de CO2 puisqu'il n'y a plus d'oxygène dans la molécule finale, mais nos deux groupements fonctionnels sont liés par un lien chimique. Donc on a pu changer la nature de ce lien chimique, je vous l'ai montré dans le spectre d'application. Par contre, on n'est pas complètement avec des axes qui sont indépendants. Ce qui reste une étape, un autre défi, puisque si on voulait avoir quelque chose d'indépendant, on pourrait idéalement aller vers ce genre de structure, donc des formamidines totalement intermoléculaires qui ont directement des applications en termes de pesticides et de fongicides. Donc là, c'est un travail sur les catalyseurs qui est nécessaire. On a développé en particulier des catalyseurs à base de cuivre qui sont capables de prendre deux molécules d'amine, une molécule de CO2, une molécule d'hydroxylane, le PMHS en l'occurrence, pour faire ces formamidines avec une bonne sélectivité. Et ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention ici, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette réaction? On a vraiment cassé toutes les liaisons carbone-oxygène et on a reconstruit de zéro la sphère de valence de l'atome de carbone en construisant une liaison double carbone-azote, une liaison simple carbone-azote et une liaison carbone-hydrogène. Deuxième défi. Deuxième défi, c'est que quand on utilise le CO2 pour aller vers les formamides ou vers les formamidines, version tridimensionnelle, avec un axe qui pointe vers vous, on est sur des réductions à deux électrons du CO2. Exactement la même chose que quand on réduit le CO2 en acide formique. Est-ce qu'on ne peut pas aller, dans notre carte, vers des molécules à beaucoup plus haute valeur énergétique et typiquement aller du CO2 vers les méthylamines? Donc ça, c'est une réaction que j'aime beaucoup, simplement parce qu'elle n'existe pas. Enfin, elle n'existait pas il y a deux ans. Et surtout, parce que si vous faites CO2 vers méthylamine, vous êtes exactement au même niveau que le méthanol. Seulement, le prix marché du méthanol, vous êtes à 400 euros la tonne. Pourquoi? Parce que le procédé qui permet de faire du méthanol est dérivé de la pétrochimie. Le pétrole n'est pas cher, du coup, vous pouvez produire du méthanol à bas coût, 400 euros la tonne. Si vous prenez les méthylamines, les moins chères sont à 4000 euros la tonne. Donc déjà, vous avez un facteur 10 qui est votre valeur ajoutée, qui est votre zone de confort pour avoir des procédés qui seront viables à plus court terme. Donc, quelle est notre approche ? L'approche est la suivante, c'est de dire à partir du CO2, d'une amine et d'un hydroxylane, je suis capable d'aller sur les formamides. Est-ce qu'à partir de ce formamide, je suis capable de remonter, typiquement ici, à partir du formamide, est-ce que je suis capable de remonter à la méthylamine en utilisant cette même source d'électrons ? Et ce qu'on veut idéalement, c'est qu'un seul catalyseur fasse tout le travail et qu'il fasse directement un lien entre CO2 et méthylamine. Donc ça, c'est une réaction qui n'existait pas il y a encore 2 ans. Et donc là, la recherche, c'est une recherche sur le catalyseur. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'on n'a pas de guide, a priori, pour trouver le catalyseur miracle. Il y a une partie calcul théorique que je vous ai montré à partir de réactions stoichiométriques qui fournit un guide. Il y a une partie tâtonnement qui fournit un guide ici. Là, on est directement dans une partie tâtonnement. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'imaginer un chemin réactionnel entre les grands intermédiaires et de voir quelles sont les étapes les plus difficiles. Et ce qu'on avait identifié, nous, c'était que la réduction du formamide pour aller vers la méthylamine serait difficile. Et classiquement, des amides, vous pouvez les réduire avec des sels de zinc. Donc, on est parti sur des sels de zinc. Mais il y a une partie d'optimisation qui est nécessaire pour avoir des catalyseurs vraiment performants. Et ce qu'on a trouvé, c'est que quand vous prenez très simplement du dichlorure de zinc ou du diéthylzinc, ce que vous avez, c'est que vous êtes capable d'aller méthyler, c'est-à-dire d'insérer un groupement CH3 à la place du groupement NH sur cette amine, en utilisant le CO2 comme source de carbone. La première chose à faire quand vous avez une nouvelle réaction catalytique, c'est de vérifier que votre groupement méthyle que vous introduisez ici vient bien du CO2. Donc là, vous utilisez du CO2 marqué au carbone 13, ça vous permet de montrer que la source du groupement méthyle là vient bien du CO2 puisqu'il est lui aussi marqué au carbone 13. Et maintenant, il faut aller améliorer l'activité du catalyseur, parce que quand on a seulement 30% de conversion avec du diéthylzinc, ce n'est pas suffisant. Il faut améliorer l'activité du catalyseur. En l'occurrence, notre problème à nous, ce n'était pas d'améliorer tant que ça l'activité du catalyseur, c'était d'améliorer sa stabilité. On en parle assez rarement, mais finalement, vous avez besoin aussi de catalyseurs qui tiennent sur des longs temps de réaction. Et c'était, dans le cadre des sels de zinc, la problématique. On formait des hydrures de zinc qui précipitaient à un moment dans le milieu réactionnel. Donc, on avait des résultats qui n'étaient pas reproductible dans le temps, et donc il fallait améliorer la stabilité des catalyseurs, et en particulier les carbènes hétérocycliques que je vous ai présentés tout à l'heure comme catalyseurs, là vont jouer le rôle de ligands, c'est-à-dire qu'ils vont venir stabiliser l'atome de zinc et les hydrures de zinc qu'on va générer au cours de la transformation catalytique. Et donc avec ces nouveaux catalyseurs à base de zinc, donc c'est-à-dire avec des métaux non nobles, c'est toujours quelque chose, voilà, une force, un défi qu'on va se fixer d'aller vers des métaux non nobles les plus abondants possibles, vous pouvez promouvoir la méthylation des amines avec des taux catalytiques qui sont raisonnables pour une nouvelle réaction catalytique. Alors depuis, il y a d'autres catalyseurs qui sont apparus, en particulier, je pense que Mathias Beller vous en parlera quand il viendra dans 2 semaines, à base de ruthénium pour faire exactement la même réaction, et vous avez un spectre d'application qui est exactement similaire avec des conditions qui sont un tout petit peu plus drastiques, c'est-à-dire qu'il doit travailler à 30 bars de CO2 alors qu'on travaille avec seulement 1 bar de CO2. Bon, vous avez compris qu'on doit ouvrir toujours le champ de molécules, donc il faut, à chaque fois qu'on a une nouvelle transformation catalytique, voir sur quel type de molécule elle s'applique. Il y a 2 messages là-dedans. Le premier est que, oui, on doit avoir des réactions qui sont les plus productives et ont un champ d'application le plus large possible. Et puis en plus, le deuxième aspect, c'est que quand on a une nouvelle transformation catalytique, pour nous, voir quelles sont les amines les plus réactives, ça nous donne une idée du mécanisme qui peut être mis en jeu. Alors, je ne vais pas parler de mécanisme ici sur cette transformation, mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'on peut méthyler des amines qui sont secondaires. On peut aussi méthyler des amines primaires avec une bonne sélectivité vers la monométhylation, ou vous pouvez aller sur de la bisméthylation des amines primaires. Et pourtant, tout ce que je vous ai montré n'est pas viable, et n'est pas viable dans le court terme, tout simplement parce que le pétrole est vraiment pas cher. On a l'impression toujours que quand on va à la pompe, on paye très cher, et finalement, c'est une ressource qui est très peu chère. Et du coup, on a encore besoin de travailler sur optimiser les procédés que je vous ai montrés. Par exemple, ici, on est avec des hydrosilanes qui sont du phénylsilane. Ce n'est pas encore le PMHS qui était la ressource jetable qui est la plus attrayante dans cette chimie. Donc là, il y a encore un travail sur l'amélioration des activités catalytiques qui doit être fait. Et donc, on peut dire que sur ce genre d'application, on vise des applications plutôt à 10 années. Ce qui, pour nous, à l'échelle du chercheur, est un peu à l'infini. Quand on a un thésard qui doit finir dans 3 ans, il veut aller plus vite. Donc, qu'est-ce qui est derrière notre infini pour nous ? Eh bien, finalement, c'est de dire quel est le gros défaut du CO2 par rapport à un hydrocarbure. Le gros défaut, c'est qu'on part avec zéro énergie. Alors qu'avec un hydrocarbure, on a énormément d'énergie, de sorte qu'on va pouvoir se permettre d'en autoconsommer 10 à 15% typiquement pour une raffinerie, c'est-à-dire brûler une partie de la ressource de base pour fournir l'énergie qui est nécessaire pour réaliser toutes les transformations, pour faire tourner les pompes, pour chauffer les milieux actionnels, etc. À partir du CO2, on est au niveau le plus bas en énergie, on n'a pas d'autoconsommation qui soit possible. Donc il faut qu'on trouve une ressource carbonée renouvelable sur laquelle on peut se permettre une autoconsommation, et donc très naturellement, on va aller sur la biomasse. Donc là, je vais prendre 10 minutes pour vous parler un tout petit peu de biomasse, parce qu'en fait, sur la biomasse, la problématique est exactement la même que pour le CO2. Certaines problématiques sont exactement les mêmes que pour le CO2, plutôt. Avec la biomasse, on est sur des hydrates de carbone, autrement dit, directement au niveau du formaldéhyde. Donc on est sur une ressource qui est déjà plus riche énergétiquement que le CO2. On va donc pouvoir se permettre une partie d'autoconsommation. Ou si vous voulez, comme on part de plus haut en énergie, on a moins d'énergie à fournir pour aller vers ces molécules. Et comme c'est l'énergie qui nous coûte cher, moins on apporte d'électrons, en particulier décarbonés, mieux on se porte. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la biomasse? Quand on regarde la biomasse, c'est-à-dire, grosso modo, tout le travail est fait. La plante a déjà pris le CO2, l'eau, l'énergie solaire, pour aller convertir le CO2 et le réduire pour aller au niveau du formaldéhyde. Mais dans la partie biomasse, toutes les molécules ne sont pas bonnes à prendre. En particulier, si on regarde les déchets de la biomasse, on va regarder la structure des macrofibrilles, qui va être constituée par une partie cellulose, donc des cycles, des sucres en C6, une partie hémicellulose en C5, et une partie lignine qui sont des aromatiques. Notre positionnement est de dire qu'il faut augmenter le contenu énergétique de cette ressource biomasse. On est au niveau du formaldéhyde, on veut encore monter en énergie, typiquement pour aller au niveau du méthanol. Donc si je dois réduire ces ressources, si je réduis la cellulose ou bien les sucres en C5, je vais aller directement vers des hydrocarbures de type hexane, de type pentane. Je vais vers les carburants, ce que je ne veux pas faire. Le but n'est surtout pas d'aller vers les carburants parce que là, on ne tient pas la compétition, le pétrole est trop peu cher. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la partie lignine. Parce que dans la partie lignine, j'ai des hétérocycles, j'ai des cycles aromatiques, que je ne sais pas faire d'ailleurs directement à partir du CO2. Il y a zéro méthode qui existe pour faire du benzène à partir du CO2 directement. Donc est-ce que je ne peux pas récupérer ces aromatiques pour les convertir vers la chimie et garder le même positionnement que j'avais sur le CO2, CO2 vers chimie, transposé à lignine vers chimie. Donc on va éviter le segment des carburants. On doit toujours augmenter le contenu énergétique parce qu'on est au niveau du formaldéhyde, on veut monter. Donc on va essayer de développer des technologies de réduction de la lignine, mais qui soient dépolymérisantes, puisque je vais vous montrer la structure de la lignine, c'est un polymère à base de fonctions éthères. Évidemment, je veux prendre en compte toutes les contraintes de matière, c'est-à-dire avoir des catalyseurs qui soient compatibles avec des impuretés, typiquement de l'eau, de l'oxygène, et puis ne pas utiliser de métaux nobles. Alors quand on regarde la structure de la lignine, la plante, finalement, une fois qu'elle a produit un lignol, par exemple l'alcool coniféryl, qui est un des monomères de base de production de la lignine, elle réalise une polymérisation oxydante de la lignine. Et cette polymérisation oxydante, tout comme on le disait pour le pétrole, oxyder sélectivement des liaisons CH, c'est difficile. Et bien la plante fait un bon travail, mais disons qu'elle n'est pas vraiment meilleure que la pétrochimie, c'est-à-dire que vous avez une structure qui est très hétérogène, vous avez beaucoup de fonctions différentes qui assurent la structure polymérique de la lignine. En particulier, vous avez des liens carbonés entre deux cycles benzéniques, des liens oxygénés avec une fonction éther ici, qui assure la structure de la lignine, ou bien d'autres liens oxygénés entre deux groupements aromatiques, etc. etc. Alors, le groupement le plus important, c'est-à-dire le lien chimique le plus abondant, c'est celui qu'on appelle bêta-O4, c'est-à-dire que vous avez un atome d'oxygène qui vient ici de votre alcool coniféryl, qui est connecté à l'atome en bêta, donc c'est celui-ci, de votre monomère de base. Et alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller en réduction. Réduction des éthers, une liaison éther, carbone-oxygène, est très peu réactive parce qu'elle n'est pas coordinante, puis elle est très stable. Du coup, il y a très peu de méthodes de réduction des éthers. Et pourtant, il y a quand même une réaction qui a été développée dans les années, fin des années 90, qui est l'hydrocylation des éthers. Donc on va revoir que notre source d'énergie, ce sont des hydrocylanes, tels que ceux qu'on a utilisés sur le CO2, et qui sont utilisés en présence de catalyseurs organiques, des acides de Lewis à base de bore, pour réduire les liaisons carbone-oxygène dans des liaisons éthères. Ça, c'est une réaction qui a été développée dans le domaine de la chimie organique, mais qui n'a jamais été utilisée réellement. Pourquoi ? Parce que simplement, une liaison carbone-oxygène d'un éther, c'est très difficile à couper. Donc dans la chimie organique classique, Dans tous vos schémas synthétiques, vous allez absolument éviter de construire des éthers parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas capable de les casser derrière. Du coup, cette réaction qui est superbe n'a jamais été utilisée dans la chimie organique parce que ça ne rentre pas dans le schéma classique de synthèse organique et a fortiori jamais été utilisée sur des molécules dérivées de la biomasse. Pourtant, si vous l'appliquez à un polymère tel que la lignine, vous allez casser toutes les liaisons carbone-oxygène entre un atome de carbone non aromatique, donc aliphatique, et vos oxygènes. Et du coup, vous pouvez complètement débobiner la structure de la lignine pour récupérer des petits aromatiques, donc soit des mono-aromatiques, soit des diaromatiques. Par exemple, si vous prenez le bêta-O4, vous auriez potentiellement un accès, une dépolymérisation qui vous donnerait des dérivés catéchol. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est simplement le travail sur des modèles. Je ne vous présenterai pas le travail sur la lignine réelle, pour des raisons de propriété intellectuelle, tout simplement. Et si on regarde des modèles de lignine, donc en particulier des modèles du fragment bêta-O4, qui est le plus abondant dans la lignine, si on utilise la méthodologie qui avait été développée par le groupe de Pierce, en utilisant une quantité catalytique d'un acide de Lewis en présence de deux équivalents de triéthylsilane qui apportent l'énergie, on arrive à casser très efficacement la liaison carbone-oxygène de l'éther qui est là, à la température ambiante en quelques heures. Vous avez des produits ici qui sont siliciés, vous pouvez les hydrolyser pour récupérer les alcools de base, qui eux sont directement des alcools encore fonctionnalisés, qui sont des molécules plateformes de la chimie organique industrielle. Alors si vous ajoutez plus d'hydrosilane, vous pouvez casser les liaisons carbone-oxygène qui restent ici et aller vers des molécules complètement désoxygénées. Mais là, vous allez un peu plus, encore plus haut dans votre schéma, vous remontez vers la pétrochimie, ça devient un peu moins intéressant. Le but dans ce positionnement, c'est de garder le maximum de fonctions chimiques possibles. Alors, si vous êtes chimiste, vous avez remarqué que votre groupement phényle, ici, il est sur l'atome de carbone alpha, et à la fin, il est sur l'atome de carbone bêta. Donc, en plus, vous avez une chimie qui est riche avec des réarrangements. Donc, je ne vais pas insister sur ces réarrangements, mais juste pour vous montrer que derrière, il y a une autre problématique qui est on veut garder un maximum de fonctionnalités, donc comment est-ce qu'on arrive à garder ces fonctionnalités? Pardon, je vais revenir ici d'ailleurs. En particulier ici, vous pouvez remarquer que ce que vous avez conservé là, c'est un alcool primaire, qui est généralement le plus réactif, alors qu'ici, vous aviez un alcool secondaire. Donc vous augmentez en plus la réactivité de votre molécule finale. Donc c'est pour ça que ce réarrangement nous avait intéressé, parce qu'il permet d'arriver à des molécules fonctionnalisées, mais encore plus réactives que les monomères de base. Donc là, ce qu'on met en œuvre, grosso modo, l'artillerie, hein, ce sont des mécanismes à la fois des études théoriques et à la fois des études par marquage. Et grosso modo, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'acide de Lewis, le catalyseur, vient activer la liaison SIH, attraper l'hydrure du silicium pour générer des cations activés. Et sur ces cations activés, vous pouvez avoir plusieurs réarrangements possibles, passer par un oxyrane cationique ou bien par un aldéhyde activé. Et après, votre hydrogène qui vient à la liaison SIH va venir réduire un des deux atomes de carbone dont vous pouvez faire par marquage la différence entre les différents mécanismes qui sont mis en jeu. Sur des modèles encore plus réalistes, c'est-à-dire avec plus de fonctionnalités, là on est vraiment sur un modèle très fidèle du modèle bêta-O4 de la lignine, vous pouvez appliquer aussi cette méthodologie et vous obtenez le phénol et encore une fois, vous voyez là des diols silylés, mais primaires, et vous avez ce réarrangement encore où l'atome le groupement phényle a migré sur le carbone en bêta. Alors, évidemment, ce que vous voulez utiliser à la fin dans ce genre de méthodologie, ce sont des hydrosilanes qui sont les moins chers possibles. Vous voyez que, vu le nombre d'atomes de carbone qu'on a utilisé ici à la base, j'ai apporté très peu d'équivalents de liaison SIH. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On peut se permettre d'apporter moins d'électrons, tout simplement parce que la ressource est déjà plus énergétique. Tout à l'heure, pour le CO2, pour chaque atome de carbone, je devais apporter de 1 à 3 liaisons silicium-hydrogène. Maintenant, j'ai environ 7 ou 8 atomes de carbone et j'apporte que 2 ou 3 liaisons SIH. Donc on est beaucoup plus efficace, on a moins d'énergie à apporter. Et en particulier, l'énergie qui est la moins chère pour les liaisons SIH, c'est le PMHS, polyméthylhydroxyoxane, que je vous ai déjà présenté, et le TMDS, qui est juste un dimère, qui est aussi un sous-produit de l'industrie des silicones et qui est peu cher, stable à l'eau, qui n'est pas d'ailleurs toxique, qui a peu d'utilisation. Et en particulier, les utilisations pour PMHS ou TMDS, ce sont des applications typiquement pour faire des cyclométhicones dans l'industrie des cosmétiques. Et ce sont des applications dans lesquelles il faut enlever la liaison silicium-hydrogène et la remplacer par une liaison silicium-oxygène. Ça tombe bien, quand vous l'utilisez pour réduire le CO2 ou des modèles de lignine, c'est exactement ce que vous faites. Les atomes d'oxygène là que vous allez casser, les liaisons carbone-oxygène que vous allez casser, les atomes d'oxygène vont aller sur le silicium. Et donc, vous covalorisez en même temps votre lignine et votre déchet silicié pour faire deux produits à plus haute valeur ajoutée. Je vais arrêter ma présentation ici avec juste quelques conclusions. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention. Ce n'est pas tant la source d'électrons qui est importante, c'est avoir un bon matching, une bonne corrélation entre la source d'électrons et l'application que vous voulez en faire. Typiquement, faire, pour répondre à la question tout à l'heure, mon point de vue personnel, c'est de faire du méthane à partir de la biomasse pour une application carburant, ça n'a pas de sens. Par contre, faire du méthanol à partir de la biomasse pour une application chimie, là, ça a déjà plus de sens parce qu'en termes de facteurs d'échelle, de coût, etc., on est beaucoup plus en phase. En particulier, le positionnement qui consiste à dire prendre le CO2 pour aller vers la chimie, ça, c'est une approche qui est intéressante à court terme, qui ne permet pas de valoriser des grands volumes de CO2, certainement pas, je vous l'ai montré. En revanche, ça permet d'aller vers des produits à haute valeur ajoutée, de sorte qu'on peut se permettre d'avoir moins de contraintes, en particulier économiques, sur les catalyseurs, les sources d'électrons, etc. Et quand bien même vous poussez dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'en faisant CO2, par exemple, pour aller vers les méthylamines, vous êtes sur des réductions à 6 électrons, donc vous avez toutes les mêmes problématiques pour la réduction du CO2 en méthanol, qui est peut-être notre graal à tous dans le domaine. Je ne rendrai pas le micro avant d'avoir remercié en particulier toutes les institutions qui ont soutenu ce travail et surtout qui nous ont permis de recruter tous les jeunes chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, parce que c'est vraiment eux qui font le travail. En particulier, alors le premier travail que je vous ai présenté a été réalisé, donc toute la synthèse des formamides a été réalisée par Olivier Jacquet qui était en postdoc et Christophe Gomez qui était en thèse et qui a soutenu assez récemment l'automne dernier sa thèse et qui est maintenant repris en particulier pour la méthylation des amines par Xavier Frogneux qui est un nouveau thésard, et puis les autres thésards travaillent sur des aspects soit mécanistiques, soit de nouvelles transformations catalytiques à partir du CO2. Puis j'aimerais également remercier mes deux collègues, Jean-Claude Berthet et Caroline Jor, qui m'épaulent dans ce travail. Et je vous remercie pour votre attention.